Alors que 8 personnes sur 10 dans le monde se revendiquent d'une religion, la pluralité culturelle et religieuse soulève des questionnements liés au fondement de l'identité dans un pays. Chaque pays, avec son histoire, ses valeurs et son régime politique, est irrémédiablement confronté à cette diversité en termes d'ethnie, de langue ou de croyance. D'une démocratie qui interroge son modèle de laïcité à un État autoritaire qui rejette ses minorités, nous vous emmenons à travers ce podcast dans un voyage au cœur des sociétés plurielles. D'un bout à l'autre du monde, nous essaierons de comprendre avec vous les enjeux et les problématiques liées à la pluralité culturelle et religieuse. Ce nouvel épisode fait escale à l'île Maurice. Destination de vacances idylliques, ce pays est surtout connu pour ses paysages balnéaires et ses récifs coralliens. Quittons un instant les lagons et embarquons avec Corentin Nicolas, journaliste, et Anouk Carcignol, chercheur, pour aller à la rencontre de la société mauricienne dont le pluralisme ethnique, religieux et linguistique lui vaut le label de laboratoire de la diversité. Bonjour Corentin, bonjour Anouk.
Bonjour Léna.
Bonjour Léna.
Dans ce podcast, nous vous proposons de découvrir l'île Maurice, un pays qui se définit comme une nation arc-en-ciel. Nous reviendrons sur son histoire, marquée par le colonialisme, l'esclavage, l'engagisme et l'accès à l'indépendance. Nous évoquerons la fragmentation de la population en communautés, mais aussi les facteurs de cohésion intercommunautaire, et nous parlerons des influences extérieures qui contribuent à façonner son identité plurielle. Au cours de cet épisode, nous recevrons deux écrivains et poètes mauriciens. Sedley Hasson, également journaliste et parolier de chansons de Sega, dont il nous parlera, et Cal Torabouli, théoricien et sémiologue concepteur de la notion de coulitude qu'il développera. Nous irons aussi à la rencontre de Nadège Ladouce et Oliviana Rinsing, mauriciennes installées en France, qui évoqueront leur expérience de vie en diaspora, ainsi que Sabrina Jean, responsable de l'association des Chagossiens du Royaume-Uni. Commençons d'abord par un petit rappel géographique.
Oui Léna, alors l'île Maurice est un archipel situé dans l'océan Indien, à l'ouest de Madagascar et à proximité de la Réunion. Il est composé d'une île principale, Maurice, petit bout de terre de 67 km de long et de 46 km de large. Et il inclut également les îles Rodrigue, Agalega et Saint-Brandon. Il revendique sa souveraineté sur les Chagos et sur l'île Tromelin.
L'île Maurice est restée longtemps inhabitée. Aujourd'hui, cet État, parmi les plus petits au monde, est aussi l'un des pays les plus densément peuplés, avec 1,3 million d'habitants, soit 620 personnes par kilomètre carré. D'où provient sa population et comment s'est passé le peuplement de cette île, qui la rend si particulière ?
Alors, il faut savoir que les îles des Mascareignes, dont fait partie l'archipel mauricien, étaient connues des commerçants phéniciens depuis l'Antiquité. Et par la suite, elles ont été régulièrement visitées par des navigateurs arabes, puis portugais, et enfin hollandais. Et ce sont eux qui ont baptisé l'île principale Mauritius, en l'honneur du prince de Nassau. Mais ils ont jugé cette île trop difficile à développer, et ils l'ont abandonnée en 1710. En 1715, Mauritius est donc passée sous domination française, et elle est devenue île de France. Du fait de sa position stratégique sur la route des Indes, les Français en font un port d'escale. Mais en 1810, l'archipel est conquis par la Grande-Bretagne et devient Mauritius. Les Anglais ne s'installent pas vraiment à l'île Maurice, ils se contentent de la gérer à distance et donc ils conservent la religion, les lois, les coutumes et le modèle économique que les Français avaient mis en place. Alors, en l'absence de matières premières, les colons ont développé à Maurice la monoculture de la canne à sucre, mais celle-ci est particulièrement exigeante en main-d'œuvre. Et donc, les planteurs ont importé des travailleurs serviles, si bien qu'au début du 19e siècle, la population locale est constituée de 9% de blancs et de 84% d'esclaves, principalement en provenance d'Afrique, ainsi que d'une minorité d'artisans et d'ouvriers d'Asie du Sud. En 1835, l'esclavage est aboli et les affranchis fuient les champs de canne. Ils se consacrent plutôt à la pêche. Donc les planteurs sont en quête de main-d'œuvre et ils instituent alors ce qu'on appelle le système de l'engagisme, qui consiste à recruter de façon plus ou moins obscure des travailleurs sous contrat pour une durée de 5 ans renouvelable. Entre 1833 et 1910, l'île Maurice a ainsi importé environ 450 000 travailleurs engagés, dits coolies, principalement en provenance de l'Inde, qui constituait à l'époque un réservoir inépuisable de main-d'œuvre à bon marché. Pascal Toraboulli, merci d'être avec nous. Vous êtes poète, mais aussi sémiologue et théoricien d'origine mauricienne. Et dans vos nombreux ouvrages, vous avez revisité le concept de coulis pour lui donner une dimension quasi universelle. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu ce que vous entendez par l'idée de coulis ?
Vous savez que le coulis, il a expérimenté le travail global avec contrat. Parce qu'il y a des gens qui sont partis de l'océan Indien, qui sont allés dans l'Atlantique, et ça concernait des Chinois, des Africains, des Japonais, des Indiens, des Européens, il y a des Normands, etc., de Lorrains qui étaient coulis. Et ça, on a établi à l'Apravasigat que 5% des gens qui traversaient par le Gat étaient non-Indiens. Donc, c'est dans la diversité. Donc, le Great Experiment signifiait quoi? Bien sûr, on remplaçait l'esclave par quelqu'un qui avait un salaire, un travail, 5 ans en général, avec une ration, des vêtements, des soins, enfin. Et voyez, la coulitude aussi a mis en premier l'accent sur le contrat. Avant, on n'en parlait pas. C'est ce qui fait la pierre d'achoppement entre l'esclavage et l'engagisme. L'esclave était un bien meuble, hein, suivant le code noir de Colbert, qu'on transmettait à ses descendants. Et ça donnait une existence juridique aux coulis qui pouvaient contester à travers des cours, des instances juridiques, des abus du coulis trade. Et le Great Experiment, c'est aussi comment gérer le transport des millions de gens à travers l'Empire avec une bureaucratie coulis. C'est-à-dire que nous sommes tous des descendants du coulis sur au moins 2 points. Quand nous signons un contrat d'un jour, nous signons le contrat que les coulis ont signé. Quand nous bougeons avec un passeport, c'est les coulis qui ont expérimenté ce document passe-frontière avec des moyens modernes d'information que des gens, par exemple, empreintes digitales, la couleur des cheveux, etc. Donc, tout ça est passé dans l'Empire et ça a donné ces méthodes de voyage que nous avons avec passeport aujourd'hui. Donc, moi, je suis fier d'être descendant de coulis. Il faut savoir que la plupart des lois qui ont été mises en avant et développées par l'Organisation mondiale du travail, viennent du coulis trade.
Des passagers libres, principalement des commerçants ou des négociants, en provenance d'Inde ou de Chine, s'installent également et tissent des liens à la fois culturels et commerciaux entre Maurice et leur pays d'origine. Alors, dès la seconde moitié du XIXe siècle, la communauté d'origine indienne, on l'a vu, est devenue majoritaire à l'île Maurice et elle constitue désormais une classe intermédiaire entre, d'une part, les créoles, qui sont situés au bas de l'échelle socio-économique, d'autre part, les commerçants chinois et musulmans, qui forment une petite bourgeoisie, et enfin, la minorité de blancs qui continue de diriger le pays, tant sur le plan économique que politique.
La société mauricienne était donc plurielle mais fragmentée, et les rapports intercommunautaires rigides et hiérarchisés. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Alors en effet, la société mauricienne coloniale pouvait être qualifiée de pigmentocratie, tant les rapports sociaux étaient régis par l'identité ethnique à laquelle se superposait une appartenance religieuse. Depuis l'indépendance, la priorité a été donnée à la construction d'une unité nationale et cela a permis d'assouplir les rapports intercommunautaires. Mais la proportion des groupes ethniques est sensiblement la même aujourd'hui et les disparités et les rapports de force sont toujours d'actualité. Alors aujourd'hui encore, les Indo-Mauriciens constituent environ les 2/3 de la population insulaire. L'île Maurice est ainsi le seul pays au monde, en dehors de l'Inde, où plus de la majorité de la population est d'origine indienne. Cette communauté est loin d'être homogène. Parmi les hindous qui composent la moitié de ce groupe, on compte des Bhojpuris, des Tamouls, des Telugus, des Marathis. On compte également 17% de musulmans, la plupart originaires du Gujarat. Les créoles, c'est-à-dire des Mauriciens d'ascendance africaine, constituent quant à eux 1/3 de la population et sont en majorité chrétiens. Et les franco-mauriciens forment 2% de la population, tandis que les sino-mauriciens constituent une toute petite minorité de 1% de la population insulaire. Alors en 1968, la Constitution reconnaît officiellement 4 communautés, les hindous, les musulmans, les sino-mauriciens et le reste qui constitue la population générale. Ces catégories ont été créées à des fins de représentation lors des élections. chaque candidat se devant de déclarer sa communauté d'appartenance. Cependant, la Constitution reste floue sur la définition de la nation mauricienne et renforce ainsi les clivages ethniques au sein de la société. Alors, le pluralisme se décline de différentes façons à Maurice selon que l'on mette l'accent sur l'unité ou la diversité. Alors, l'une des conceptions du vivre ensemble met en valeur l'insularité et les points communs qui font la spécificité de la nation mauricienne. Cette approche est qualifiée de mauricianiste et vise à faire primer l'unité sur la diversité. Alors, parmi les piliers du mauricianisme, on rencontre le séga, un style de musique né à l'île Maurice et qui participe vraiment à fédérer la population et à transcender les différences communautaires en explorant des thèmes communs tels que les souffrances liées à l'esclavage ou à l'engagisme et en parlant des aspirations communes également, notamment la fierté d'être mauricien. Alors, nous avons rencontré Sally Hassan qui nous parle du séga en tant qu'auteur de textes, de chansons de séga justement.
Le séga, au départ, est chanté par les esclaves. Ils étaient au repos, les esclaves chantaient des mélopées. Mais au fil des ans, le séga contemporain s'est mauricianisé. Aujourd'hui, le séga transcende les barrières communautaires. Dans les années 70, nous avons le séga de revendication qui sera connu comme le séga engagé. Et je pense que Kaya a inventé le ségué en mariant le rythme du séga avec le reggae de Bob Marley. Et c'est ce qui donne le ségué. Et ces textes sont dans la lignée de ce que faisaient les chanteurs engagés. Ils dénoncent le racisme mauricien, ils prônent le métissage.
Mettez les doigts dans l'île, mettez les doigts dans l'île. Mettez les doigts dans l'idée, Rosa. Rosa, y'a les béguets. Ah, Rosa n'a pas les lévés. Rosa n'a pas les lévés. Voilà la ligne, là, les béguets. Rosa d'un pour consommer. Ah, Rosa n'a pas les lévés. Rosa n'a pas les lévés. Voilà la coque, la santé. Rosa, copé, caïssou. Ah, Rosa n'a pas les lévés. Rosa n'a pas les lévés. Voilà la ligne, là, les béguets.
Alors, au-delà du séga, quels pourraient être les autres facteurs de cohésion nationale? Toujours selon Sedley, la cuisine, la littérature participent également à transcender les différences ethniques, culturelles, religieuses et même linguistiques pour former vraiment ce qu'on appelle le mauricianisme.
Cuisine, aujourd'hui, le mine frite, qui était une spécialité des sino-mauriciens. Le minfrit est aujourd'hui un plat typiquement mauricien, tout le monde en mange, comme le biryani, qui était une spécialité de la cuisine musulmane. C'est devenu un plat totalement typiquement mauricien. Donc, à travers la musique et la cuisine, sans oublier la littérature, les Mauriciens, s'ils détestent se délivrer dans la réalité de leur pays. Je pense que ce qu'ils lisent les aide à se débarrasser des contraintes, des pesanteurs qui les empêchent de se rallier autour de sa identité. Je pense que la musique, la cuisine, la littérature aident et vont aider définitivement le Mauricien à mieux appréhender son statut national.
Alors, la langue créole est également un autre pilier du mauricianisme et elle permet de déplacer les clivages communautaires puisque c'est la seule langue qui est communément parlée par la quasi-totalité de la population. À l'île Maurice, il faut savoir que les gens parlent français, anglais, ils parlent également des langues ancestrales telles que le Bhojpuri et des langues importées comme l'arabe. Mais le créole, c'est vraiment la langue la plus parler, quelle que soit la communauté d'appartenance. Pourtant, cette langue reste dévalorisée à l'île Maurice parce qu'elle est marquée du sceau de l'esclavage et de l'engagisme, si bien que l'écrivain Dev Virasamy déplore le fait que les Mauriciens ont honte de la parler. effectivement, les leaders ont toujours refusé de faire du créole leur langue officielle, de peur de s'enfermer dans un insularisme qui serait en porte-à-faux avec leur désir d'ouverture au monde. Des initiatives ont néanmoins été entreprises récemment pour promouvoir l'usage du créole. On peut citer le glossaire de Vinesh Hukum Singh de l'Université de Maurice, qui vise en particulier à harmoniser l'écriture du créole, une langue orale jusqu'à présent. C'est d'ailleurs en créole que Sedley Hasson a choisi de s'exprimer pour déclarer son amour pour son pays.
Dans les Kolkassi, motissant Glory to thee. Jean-Jose Prosper a tiré les salines. Moi encore, ma zine, mamie. Dans le lutteau, tu criais, kin. Bout mon pays, chaque fois revenu. Quand mon mémoire gagne un parfum satiné. Tu peux manger caripoule dans dimanche. Qui bise un fer pour retourner au pays pour l'enfance. Mon tchaké un peu partout de haut. Mais tout le temps pour une indolé en dedans ou les corps. Si tu aimes mon pays dans moi, ça même zo, mon coup n'est plus moi. C'était donc mon fier moine mauricien.
Pour promouvoir l'unité mauricienne et pour mettre en valeur l'interculturalisme et dépasser la juxtaposition des communautés, le poète et théoricien Khal Torabouli, d'origine indo-mauricienne, se met dans la peau d'un esclave pour justement transcender les clivages et dire les souffrances de l'autre. Alors il propose de lire un poème qui est empreint d'empathie et qui s'intitule « Je suis nègre ».
Nègre, par expression. Nègre par expression, puisque je n'ai pas de préférence. Par naissance, je suis nègre de parole et esclave des mémoires. Puisqu'il faut raison à ma syntaxe et ponctuation à mes cris, je dis, je clame l'Afrique dans la déchirure des phrases, nègre par expression, mauricien par concordation, poète par dépression des langages, je suis nègre, couli, métèque des mauriens, maori, peau rouge des mots blancs. Nègre des mots pour casser une phrase, zombie de l'inconscient et insulaire des cultures du silence. Le tambour ne suffit plus pour que l'Afrique commence. Il faut un grand silence des rythmes et cyclones des chants et des mains qui manient images et métaphores dans la sorcellerie de l'inspiration. Nègre, dans le gris-gris des grammaires, mots cassables, cassava et cri-cri de chair. Mauricien, mot rien.
D'autres occasions contribuent enfin à renforcer la cohésion entre les différentes communautés. C'est le cas, par exemple, de la célébration de la Journée nationale de l'île Maurice, le 12 mars, qui marque l'accès du pays à l'indépendance. C'est un moment de réjouissance et de fierté nationale et l'occasion de fêter l'unité et la diversité à l'île Maurice.
Au-delà d'un certain patriotisme, définir la population mauricienne s'apparenterait davantage à la description d'un tali indien, un plateau en inox sur lequel riz, naan et condiments ne se mélangent pas. En l'occurrence, une population hétérogène, avec des communautés bien distinctes qui tiennent à conserver leur identité.
Je m'appelle Nadège, je suis née en France, en Île-de-France même. Mes deux parents sont mauriciens. Ils sont nés et ont grandi à l'île Maurice.
Je m'appelle Olivia, je suis née à Port-Louis, à l'île Maurice. Et ça fait 8 ans cette année que je suis à Paris.
Mes deux parents sont mauriciens, créoles, de la communauté créole tous les deux. Seulement, ils ne viennent pas des mêmes mélanges, si je puis dire. Ma grand-mère, du coup, était plutôt de la communauté créole, noire, Madagascar, noire africaine. Mon grand-père avait plutôt voilà, un mélange asiatique et sûrement africain. Et du côté de mon père, c'était plutôt... je pense qu'il y a des origines à la fois indiennes, à la fois créoles, métissées, enfin vraiment de beaucoup de mélanges.
On sait juste qu'une partie de chez mon père, on vient plutôt d'Inde. Du côté de ma mère, je sais que par exemple, arrière-grand-mère du coup, a certainement des origines françaises. Il se pourrait du coup que le côté créole vienne de mon grand-père maternel.
C'est très difficile en fait de définir une ethnie en particulier parce qu'elle a tellement été diluée, on va dire. Je pourrais dire que je suis créole, mais aujourd'hui, je me définirais comme franco-mauricienne avant tout.
Si on faisait simple et qu'on demandait à mes parents, est-ce qu'eux se sentent... ils trouvaient que plutôt que notre famille était plutôt une famille hindoue ou créole, mes parents te répondraient créole.
Que l'on parle parti politique ou répartition du travail, chaque communauté occupe une certaine place où le transfuge semble impossible. Chaque communauté s'assure une représentation, mais ce système renforce l'ethnicisation de la vie politique.
La seule chose qui divise les Mauriciens et qui a toujours divisé les Mauriciens, c'est la politique. Si la musique, la cuisine, si on se rallie autour de toutes ces choses, la littérature, etc., c'est toujours la politique qui divise. Parce que la finalité de la politique à Maurice, ce n'est pas de servir, mais d'avoir le pouvoir. Il faut le dire crûment, il faut le dire comme ça. Et donc, pour avoir le pouvoir, il faut monter une communauté contre une autre. Il faut faire croire aux hindous qui sont majoritaires dans l'île et que les autres communautés ne doivent pas avoir accès au poste de Premier ministre. Et il est toujours question de gâteau national, entre guillemets, dans les campagnes électorales. Les politiciens disent qu'il faut partager équitablement le gâteau national. Mais en fait, de gâteau, on n'a jamais vu la couleur de ce gâteau. On ne sait pas qui est le pâtissier. Qui aura un bout, qui aura un gros morceau. Ça dure depuis l'indépendance, mars 68, et c'est pas prêt de s'arrêter, malheureusement. Si vous êtes candidat, vous devez vous déclarer comme hindou, comme population générale, comme sino-mauricien, comme musulman. C'est absurde. Je pense qu'il ne devrait y avoir que des Mauriciens à Maurice.
Cet éventail ethnique est également perceptible sur le calendrier mauricien, qui reconnaît Noël, l'Aïd el-Fitr, Diwali et le Nouvel An lunaire. De même pour les lieux de pèlerinage et pour les sites de patrimoine historique, si les créoles reconnaissent la colline du Mont-Brabant, symbole de l'affranchissement des esclaves en 1835, les hindous quant à eux commémorent l'arrivée des premiers engagés indiens à Maurice, devant l'Apravasigat. Chaque année, une cérémonie officielle est organisée en présence des autorités indiennes et mauriciennes.
Quels sont les réels liens entre ces communautés et les pays d'origine? Peut-on parler de véritable ingérence étrangère dans ces conditions?
La Chine et l'Inde en particulier exercent une influence dans tous les domaines à l'île Maurice. L'Inde tout d'abord est le partenaire privilégié du pays. Centre culturel et religieux, institut de recherche, investissement, partenariat économique et stratégique. On retrouve même des chaînes publiques mauriciennes et indiennes qui se côtoient sur le bouquet gratuit. De son côté, la Chine renforce également sa présence sur l'île en finançant le nouveau métro, mais aussi certains hôpitaux et certaines écoles. Le pays s'investit aussi dans la promotion de la langue et de la culture, malgré une présence diasporique mineure. Chine, Inde, mais également France et Royaume-Uni, tous utilisent leur communauté sur place comme un relais stratégique afin d'obtenir une plus grosse part du gâteau mauricien. Une politique diasporique qui contribue davantage à faire primer la diversité par rapport à l'unité à Maurice. Dans cette équation, la population créole est quant à elle laissée pour compte, car elle n'a pas un attachement très fort à son territoire d'origine, l'esclavage ayant effacé langue, identité et culture.
Et parmi ces communautés qui s'expriment haut et fort, l'une d'elles peine encore à se faire entendre, et ce depuis presque 60 ans.
Parlez-moi chez mon mari, c'est qui nous a gagné, nous a mangé.
Bel bateau, allez là-bas. Bel bateau, allez, Diego. Bel bateau, allez, Diego. Li gagne l'eau, les tournées.
Ranou Chagos, comprenez, rendez-nous les Chagos, scandent depuis plusieurs décennies les habitants de cet archipel. Un chapelet de 64 îlots à 1700 km des côtes sri-lankaises, ce territoire anciennement mauricien a été tronqué par les Britanniques pendant le processus d'indépendance. Le Royaume-Uni voyait en cet archipel l'opportunité de créer une base militaire avec son allié américain pour protéger les intérêts occidentaux. C'est ainsi que dès 1967, près de 2000 Chagossiens sont déportés manu militari aux Seychelles et à Maurice. Les traversées sont pénibles et des morts sont à déplorer. À leur arrivée, ils sont parqués dans la capitale mauricienne, sans assistance et dans une extrême pauvreté. Le traumatisme sera grand et il leur faudra près de 50 ans avant de s'exprimer. En 2016, à l'aube de la fin du bail anglo-américain, les Chagossiens natifs et descendants, réunis à Londres, ont demandé réparation. À ce propos, je vous propose d'écouter Sabrina Jean, la responsable de l'association des Chagossiens du Royaume-Uni.
Le but du groupe Réfugiés Chagos, c'est de se militer pour un droit de retour sur les îles natales. Ça, c'est le combat du groupe Réfugiés Chagos qu'ils ont mené depuis plusieurs années, ensemble avec M. Bancoul. Et aussi, pour, de côté de l'immigration aussi, pour les autres qui n'ont pas de passeport.
En mai 2019, l'ONU a jugé illégale l'occupation de l'archipel par les Anglais et a demandé sa restitution à l'île Maurice. Ce qui n'a jamais été fait, puisque la Grande-Bretagne a reconduit son bail de 20 ans.
J'ai toujours dit que s'il faut blâmer les gouvernements qui ont causé le malheur aux Chagossiens, il faut blâmer les trois gouvernements. L'île Maurice, les États-Unis et l'Angleterre aussi. Mais par contre, quelques années là, je vois que l'île Maurice, il est très intéressé avec le retour du Chagos. Mais nous, les Chagossiens, on a toujours dit, l'île Maurice, s'ils veulent se bagarrer pour leur souveraineté, ça, c'est pas aux Chagossiens de se bagarrer. Il faut toujours se bagarrer pour l'injustice que le gouvernement britannique a fait avec la communauté. Il faut continuer à travailler, mais on ne sait pas ce qui va se passer, mais on a l'espoir qu'il y aura quelque chose pour les Chagossiens.
L'histoire se répéterait-elle ? L'identité patchwork mauricienne s'exporte désormais. À l'image d'un arbre aux racines multiples, les branches diasporiques se déploient à leur tour dans le monde. On les retrouve en Grande-Bretagne, au Canada ou encore en Australie. En 2015, le gouvernement mauricien évoquait une fourchette entre 200 000 et 500 000 individus hors du pays. En France, l'estimation se situerait entre 20 000 et 50 000 selon la communauté. Et qu'en est-il de ces mauriciens de l'étranger ? Arrivent-ils à s'organiser ou restent-ils les stigmates de la fragmentation ethnique ?
C'est pas une diaspora, disons, structurée, organisée comme des diasporas que je connais, et je vois pas tant de mélange que ça dans la entre personnes mauriciennes, enfin de la diaspora mauricienne de différentes ethnies ou communautés.
Ici, je côtoie plus de personnes qui sont plutôt créoles, un petit peu hindous, mais par exemple, je crois que je ne connais aucun mauricien ou mauricienne. Une famille musulmane, ou sino-mauricien aussi.
Il y a aussi les pèlerinages pour aller, je sais pas, en Normandie, en Père Laval, enfin, différents lieux un peu de pèlerinage. Donc là, évidemment, c'est essentiellement des créoles, et des mauriciens et des créoles, éventuellement des réunionnais.
Il semblerait que dans les sociétés officiellement multiculturelles, qui valorisent la diversité, les mauriciens de la diaspora soient plus soudés.
J'ai beaucoup de familles en Australie, qui font vraiment partie de la diaspora mauricienne et qui la vivent au quotidien et qui sont hyper fiers.
En vrai, j'ai une très grande partie de ma famille mauricienne qui est en Suisse et eux côtoient aussi d'autres mauriciens là-bas que moi je connaissais pas forcément. Avant, il y avait beaucoup de bals mauriciens, ce genre de choses.
Je pense qu'en France, il y a cette culture de voilà de se fondre dans le moule est dans l'identité française, qui fait qu'on efface aussi certaines, pas aspérités, mais certaines parties de notre identité, qu'on vraiment, on devient, on efface voilà une partie de notre identité inconsciemment.
Entre unité et diversité, comment les Mauriciens concilient-ils leur identité plurielle? Sedley Hasson nous confie ce que veut dire pour lui être Mauricien.
J'adore mon pays. À chaque fois que je m'éloigne de cette île, j'ai la nostalgie du lieu de mon enfance, de Les Salines. Et je pense que l'île Maurice est unique au monde. De par ce peuple métissé, ce peuple en couleur, ce peuple de toutes les couleurs. Et je serai toujours au front pour défendre le droit à ce peuple de se réclamer multiple. Voilà ce que je peux dire.
L'île Maurice a hérité de la période coloniale un mode de gestion communaliste qui se traduit par une ethnicisation de la vie politique. Ce phénomène est renforcé par les inégalités socio-économiques qui résultent des épisodes de l'esclavage et de l'engagisme et qui ont un impact différent sur les communautés. Le pluralisme, ce savant mélange d'unité et de diversité, inspiré du modèle indien et adopté en 1968, est donc fragile à Maurice. Il est néanmoins porté par la population. On ressent en effet à Maurice une véritable fierté d'appartenir à une île-monde, un pays aux racines multiples, aux identités poreuses, aux communautés entremêlées par une histoire commune et la volonté de vivre ensemble en harmonie. En ce sens, le pluralisme mauricien reste promis à un bel avenir. Vous venez d'écouter le podcast « Voyage au cœur des sociétés plurielles » produit par l'Observatoire Pharos. N'hésitez pas à nous transmettre vos remarques, critiques ou commentaires par email à l'adresse contact@observatoirepharos.com. Vous pouvez également soutenir la poursuite de ce projet de podcast grâce à notre campagne de financement participatif disponible dans la description. Pour rester informé de la sortie des prochains épisodes et pour accéder à nos différents contenus relatifs au pluralisme culturel et religieux, rendez-vous sur notre site web www.observatoirepharos.com. Retrouvez-nous aussi sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram, et abonnez-vous à nos différentes lettres d'information. À très vite pour un nouveau voyage.